Courte méditation sur la gloire morale du Seigneur Jésus-Christ par J.G. Bellet. Quatrième enregistrement. Le Seigneur donnait sans cesse, mais il approuvait rarement. Il communiquait abondamment, là où il ne rencontrait que peu de communion. Ainsi se révèle et se magnifie sa bonté. Il n'y avait rien dans l'homme qui eût de l'attrait pour Jésus, et cependant il donnait toujours. Il était comme le Père qui est aux cieux, duquel il parlait lui-même, faisant lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoyant sa pluie sur les justes et les injustes. Matthieu 5, verset 45.
En sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes.
Nous apprenons ainsi ce que Jésus est à sa gloire, et ce que nous sommes à notre confusion. Mais Jésus n'était pas seulement comme le Père qui est aux cieux, l'image de Dieu dans ce qu'il faisait. Il était aussi dans le monde comme le Dieu inconnu dont parle Paul, acte 17, verset 23.
Car en passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit « Ô Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce.
Les ténèbres ne le comprirent pas. Le monde, ni par sa religion, ni par sa sagesse, ne le connut. Les abondantes richesses de sa grâce, la pureté de son royaume, le fondement et les droits sur lesquels seule la gloire qu'il cherchait dans un monde comme celui-ci pouvait être établie, tout cela était étranger aux pensées des enfants des hommes. On l'aperçoit aux profondes erreurs morales dans lesquelles il tombe sans cesse. Lorsque, par exemple, les foules saluaient avec enthousiasme le roi et le royaume dans sa personne. Luc chapitre 19. Les pharisiens disent
« Maître, reprends tes disciples ».
Ils ne pouvaient supporter la pensée que le trône appartenait à un homme tel que lui. C'était, pensaient-ils, de la présomption en lui, Jésus de Nazareth, de permettre que des joies royales l'entourassent. Ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas appris à connaître le secret de la véritable gloire dans notre monde menteur et déchu. Ils ne connaissaient pas davantage le mystère du rejeton sortant d'une terre aride. Ils n'avaient pas discerné en esprit le bras du Seigneur. Ésaïe chapitre 53, versets 1 et 2.
Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine sortant d'une terre aride.
C'était là où l'Esprit du Seigneur lui-même conduisait le cœur, qu'on faisait des découvertes à son sujet, découvertes bien précieuses et aussi bien diverses dans leur mesure. Au chapitre 1 de Marc, de nombreux appels sont faits au ministère de grâce et de puissance du Seigneur. Des malades, souffrant de toutes sortes de maladies, viennent à lui. Des foules l'écoutent et reconnaissent l'autorité avec laquelle il parle. Un lépreux apporte sa lèpre devant lui, le reconnaissant ainsi comme le Dieu d'Israël. À différents degrés, il y avait alors une certaine connaissance de Jésus, soit de ce qu'il était, soit de ce qu'il possédait. Mais au chapitre 2 du même évangile, nous trouvons une connaissance de lui qui s'exprime d'une manière plus vive et plus excellente, et des exemples de la foi qui savait comprendre le Sauveur, et c'est la chose la plus profonde. Les hommes de Capernaum qui lui apportent leur ami paralytique comprennent le Seigneur et en même temps se servent de lui. Ils comprennent ce qu'il est en lui-même, dans son caractère, dans ses habitudes et dans les sentiments de son âme. La manière même dont ils s'y prennent pour arriver à lui nous le dit. Ils ne s'approchent pas avec réserve, comme s'ils doutaient ou s'ils étaient intimidés.
Ils font plutôt comme Jacob lorsqu'il dit « Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. »
Genèse 32, verset 26. Et cela est une chose plus agréable à Jésus et plus en rapport avec la manière dont l'amour aime que nous agissions. Ils ne demandent pas de permission, ils n'usent pas de cérémonie, mais ils ouvrent le toit de la maison pour arriver jusqu'à lui. Ils connaissaient donc le Seigneur en même temps qu'ils se servaient de lui. Ils savaient qu'ils trouvaient sa joie à ce que, dans le besoin, les affligés se confiassent en sa grâce et fissent usage de sa puissance sans réserve. Lévi, peu de moments après, agit de même, Marc chapitre 2. Il fait une fête et place des publicains et des pécheurs dans la compagnie de Jésus, montrant ainsi qu'il connaissait Jésus et savait quel était celui qu'il recevait chez lui, comme Paul savait en qui il avait cru, de Timothée 1, verset 12.
C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là.
Cette connaissance du Seigneur est d'un grand prix. Elle est divine, la chair et le sang ne la donnent pas. Les frères de Jésus ne la possédaient pas. Ils disaient de lui, alors qu'il se dépensait dans le service, « Il est hors de sens. » Marc 3, verset 21.
Et ses proches, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. »
Mais la foi fait à son sujet de grandes découvertes, et elle agit en conséquence. Elle peut paraître nous faire dépasser quelquefois de justes limites et nous conduire au-delà de ce qui est convenable et mesuré. Mais au jugement de Dieu, elle ne fait jamais ainsi. Les foules disent à Bartimée de se taire, mais il refuse, car il connaît Jésus comme Lévi le connaît, Marc chapitre 10. La plénitude de l'œuvre de Christ dépasse nos pensées, et cependant c'est en cela qu'est sa gloire. Le Sauveur vient à nous dans tous nos besoins, mais en même temps il introduit Dieu. Jésus guérissait les malades, mais il prêchait aussi le royaume. Ceci, toutefois, n'allait pas à l'homme, quelque étrange que cela puisse paraître. Car l'homme sait d'ordinaire fort bien apprécier son propre avantage, mais telle est l'inimitié du cœur charnel contre Dieu que, lorsque la bénédiction arrive accompagnée de la présence de Dieu, elle n'est pas reçue avec joie, et de la part de Christ, elle ne pouvait pas venir autrement. Le but de Christ est de glorifier Dieu aussi bien que de sauver le pécheur. Dieu a été déshonoré dans ce monde, comme l'homme y a été perdu, perdu par sa propre faute. Et le Seigneur, le réparateur des brèches, fait une œuvre parfaite. Il revendique et maintient le nom et la vérité de Dieu, annonçant son royaume et ses droits et manifestant sa gloire, aussi bien qu'il sauve et vivifie le pécheur perdu et mort. Nous l'avons déjà dit, ceci ne convient pas à l'homme. Il veut bien que l'on s'occupe de lui, mais quant à la gloire de Dieu, en advienne que pourra. Tel est l'homme. Mais lorsque, par la foi, le cœur d'un pauvre pécheur a été changé, et qu'il peut vraiment se réjouir dans la gloire de Dieu, c'est un beau spectacle. La Syrophénicienne nous en offre un exemple. La gloire du ministère de Christ parlait vivement et fortement à son âme. Cependant, le Seigneur, dans la position qu'il prend, malgré l'affliction de cette femme, maintient les principes de Dieu et laisse la Syrophénicienne de côté comme étrangère.
« Je ne suis envoyé,
lui dit-il,
qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. »
Matthieu 15, versets 24 et 26. La femme se soumet à cette déclaration. Elle reconnaît le Seigneur comme le dispensateur de la vérité de Dieu et ne veut pas supposer, même pour un seul instant, qu'il voulut renoncer en sa faveur et pour ses besoins au dépôt qui lui était confié, c'est-à-dire à la vérité et au principe de Dieu. elle veut que Dieu soit glorifié selon ses propres conseils, et que Jésus soit toujours le témoin fidèle de ses conseils, et le serviteur du bon plaisir de Dieu. Peu importe ce qu'il en adviendra pour elle.
« Oui, Seigneur, »
dit-elle, et elle maintient ainsi tout ce que le Seigneur lui avait dit. Mais elle ajoute, en parfait accord avec les paroles de Jésus,
« Car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. »
Tout cela est très beau. C'était le fruit de la lumière de Dieu dans l'âme. La mère de Jésus, au chapitre 2 de Luc, est bien inférieure à cette femme d'entre les gentils. Marie ne savait pas que Jésus devait être aux affaires de son père, tandis que cette étrangère avait compris que c'était de ses affaires mêmes qu'il avait toujours à s'occuper. Elle voulait que les voies de Dieu, par la main fidèle de Christ, fussent magnifiées, quoique elle-même fût ainsi mise de côté, même dans son affliction. C'était là connaître Christ, c'était l'accepter dans la plénitude de son œuvre, comme celui qui se tenait pour Dieu dans un monde révolté contre lui, aussi bien que pour le pauvre et indigne pécheur qui s'était perdu lui-même. Il n'est pas bon d'être toujours compris. Notre conduite et nos habitudes devraient être celles d'étrangers, de citoyens d'une autre patrie, dont le langage, les lois et les coutumes ne sont connus ici que bien imparfaitement. La chair et le sang ne peuvent les apprécier. C'est pourquoi les saints de Dieu ne sont pas dans une bonne condition lorsque le monde les comprend. Les parents même de Jésus ne le connaissaient pas. Sa mère le connaissait-elle quand elle l'engagea à manifester sa puissance en fournissant du vin pour la fête? Jean chapitre 2. Ses frères le connaissaient-ils quand ils lui disent
« Si tu fais ces choses, montre-toi au monde toi-même. »
Jean 7, verset 4. Quelle pensée! Essayer d'induire le Seigneur Jésus à faire de lui-même ce que nous appelons un homme du monde. Était-il possible qu'il y eût une connaissance réelle de Jésus chez ceux qui énonçaient une semblable pensée? Ils en étaient éloignés. Aussi l'évangéliste se hâte-t-il d'ajouter
« Car ses frères ne croyaient pas en lui non plus. »
Jean 7, verset 5. Ils comprenaient la puissance du Seigneur, mais non pas ses principes, car, à la manière des hommes, il rattachait la possession de talents ou de puissance au service des intérêts de l'homme dans le monde. Je n'ai pas besoin de dire que Jésus était l'opposé de ceci, et ses parents, selon la chair, pleins de l'esprit du monde, ne pouvaient pas le comprendre. Les principes qui le faisaient agir étaient étrangers à un monde comme celui où nous vivons. Ce même monde les méprisait, comme la fille de Saül méprisa David, dansant devant l'arche, de Samuel 6, verset 16.
Et comme l'arche de l'Éternel entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre, et elle vit le roi David sautant et dansant devant l'Éternel, et elle le méprisa dans son cœur.
Mais quelle puissance d'attraction n'y avait-il pas en Jésus pour les yeux et le cœur que l'Esprit avait ouverts? Les apôtres en sont la preuve. Ils ne savaient que peu de choses de leur maître doctrinalement, et ils ne gagnèrent rien à demeurer avec lui, rien, je veux dire, dans ce monde. Leur condition ici-bas ne fut rien moins qu'améliorée par leur marche avec Jésus, et on ne peut pas dire qu'ils se prévalussent eux-mêmes de sa puissance miraculeuse. Ils la mirent en doute plutôt qu'ils n'en usèrent, et cependant ils tenaient à lui. Ils ne se joignent pas à Jésus parce qu'ils voyaient en lui le vase inépuisable qui renfermait tout ce qui pouvait satisfaire à tous leurs besoins. Nous pouvons affirmer, je crois, qu'ils n'ont jamais fait usage de son pouvoir pour leur propre profit. Cependant, ils étaient là avec lui, troublés quand il parle de l'équité et pleurant quand ils pensent l'avoir réellement perdu. Nous le répétons encore, quelle puissance d'attraction ne devait-il pas y avoir en Jésus pour ceux dont les yeux et le cœur avaient été ouverts par l'Esprit ou qui avaient été tirés par le Père, Jean 6, verset 44.
Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Avec quelle autorité aussi un seul regard de Jésus, une seule de ses paroles entrait parfois dans le cœur. Ce seul mot de sa part, « Suis-moi », suffit. Et cette autorité, cette attraction, était sentie par des hommes du caractère le plus opposé. Thomas, si raisonneur, si lent à croire, et Pierre, si ardent, si irréfléchi, sont maintenus tous les deux auprès et autour de ce centre merveilleux. Et même Thomas, dans cette présence du Seigneur, respirera l'esprit dévoué de Pierre et dira, sous l'influence aussi de cette attraction puissante,
« Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » Jean 11, verset 16.
Que sera-ce donc quand bientôt nous verrons et nous éprouverons tout cela dans sa perfection? Lorsque toute la famille humaine de tout pays, de toute couleur, de tout caractère sera rassemblée, que toute tribu et langue et peuple et nation sera avec le Seigneur et autour de lui, dans un monde digne de lui. Il vaut la peine d'arrêter notre pensée sur ces exemples du prix qu'avait Jésus pour des cœurs semblables aux nôtres. Accueillons-les comme des gages de ce qui, en espérance, nous appartient aussi bien qu'à eux. La lumière de Dieu luit quelquefois devant nous, pour que, selon la puissance qui nous est donnée, nous puissions la discerner, en jouir, nous en servir et la suivre. Ce n'est pas seulement qu'elle nous accuse ou qu'elle exige de nous, mais comme je l'ai dit, elle luit devant nous pour que nous la reflétions, si nous avons de la grâce. Nous la voyons faire son œuvre, de cette manière, dans l'église primitive à Jérusalem. La lumière de Dieu qui était là n'exigeait rien. Elle brillait avec clarté et puissance, mais voilà tout. Pierre parla le langage de cette lumière quand il dit à Ananias,
« Si elle,
la terre,
fut demeurée non vendue, ne te demeurait-elle pas? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir ?»
Acte 5, verset 4. La lumière n'avait rien exigé d'Ananias, elle brillait simplement à ses côtés, ou devant lui, dans sa beauté, afin qu'il y marchât selon sa mesure. C'est ainsi en grande partie que brillait la gloire morale du Seigneur Jésus, et notre premier devoir, à l'égard de cette lumière, est d'apprendre par elle ce que Christ est. Nous n'avons pas à commencer à nous mesurer nous-mêmes péniblement et anxieusement à sa clarté, mais à apprendre avec calme, bonheur et action de grâce, Christ, dans toute la perfection morale de son humanité. Cette gloire nous a quittés. Son image vivante n'existe plus sur la terre. Les évangiles nous disent ce qu'elle a été, mais elle ne brille plus nulle part ici-bas. Celui dont la gloire a été manifestée sur la terre s'en est allé auprès du Père. Mais s'il n'est plus ici-bas, mes bien-aimés, il est cependant toujours ce qu'il était. Nous sommes appelés à le connaître, pour ainsi dire, par le souvenir, et le souvenir ne crée pas de fiction. Il ne peut que tourner des pages vivantes et vraies, et c'est ainsi que nous connaissons Christ pour l'éternité. Les disciples connaissaient Christ personnellement. C'était sa personne, sa présence, c'était lui-même qui les attirait, et c'est là ce dont il nous faut une plus grande mesure. Nous pouvons être occupés à apprendre des vérités au sujet de Jésus, et faire des progrès dans ce chemin, mais avec toute notre connaissance et malgré toute l'ignorance des disciples, ils peuvent nous laisser bien loin derrière eux quant à la puissance d'un vrai et entier attachement à la personne du Seigneur. Assurément, chers amis, il faudrait que les affections de nos cœurs pour Jésus dépassassent la mesure de connaissance que nous avons pu acquérir de lui. il deviendrait évident ainsi que nous l'avons compris lui-même réellement. Et il y a encore des âmes simples chez qui cet attachement pour la personne de Christ lui-même se manifeste. Mais en général, il n'en est pas ainsi. De nos jours, la lumière que nous avons et notre connaissance de la vérité dépassent la mesure de ce que notre cœur ressent pour le Seigneur. Et pour celui qui a quelque vraie sensibilité, cette découverte est pénible. Le privilège de notre foi chrétienne, a dit quelqu'un, le secret de sa puissance gît en ceci, c'est que tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle offre, est renfermé dans une personne. Ce qui fait sa force, alors que tant d'autres choses se sont montrées faibles, c'est qu'elle a un Christ pour centre, c'est qu'elle n'a pas une circonférence sans un milieu, c'est qu'elle n'a pas un salut seulement, mais un sauveur. Pas une rédemption seulement, mais aussi un rédempteur. Voilà ce qui rend la foi chrétienne ce qu'elle doit être pour des hommes, pèlerins et voyageurs, ce qui la fait luire comme la lumière du soleil. Tout le reste, si on le compare avec elle, n'est plus que comme la lumière de la lune, qui peut être claire, mais qui est froide et improductive. Tandis qu'ici, la lumière et la vie sont une seule et même chose. Le même écrivain dit encore, « Quelle différence n'y a-t-il pas entre nous soumettre à un code de règlement et nous jeter sur un cœur aimant, entre accepter un système et nous attacher étroitement à une personne ? Notre bonheur, ne le perdons pas de vue, c'est que nos trésors sont renfermés dans une personne qui n'est pas pour une génération un docteur présent et un seigneur vivant, et après, pour toutes les générations subséquentes, un docteur passé et un seigneur mort, mais un maître et seigneur présent et vivant à jamais. » Fin de citation. Ce sont là certainement de bonnes et de profitables paroles. Le ministère du Seigneur, aussi bien que son caractère, nous présente une combinaison remarquable des mêmes gloires morales. Et à ce point de vue de son ministère, nous pouvons considérer le Sauveur dans sa relation avec Dieu, avec Satan et avec l'homme. Dans sa relation avec Dieu, le Seigneur Jésus, en lui-même et dans ses voies, présentait toujours l'homme à Dieu tel que Dieu voulait qu'il fût. Christ restituait la nature humaine comme un sacrifice de paix ou de bonne senteur, un encens pur, une gerbe pure des premiers fruits provenant du terroir humain. Il rendit à Dieu son bon plaisir en l'homme que le péché ou Adam lui avait ôté. Le repentir de Dieu de ce qu'il avait fait l'homme, Genèse 6, verset 6, se change en délice et en gloire dans l'homme.
Genèse 6, verset 6, « Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. »
Et cette offrande fut faite à Dieu au milieu de toutes les oppositions, de toutes les circonstances contraires, de toutes les peines, les fatigues, les déceptions et les brisements de cœur. Merveilleux autel, merveilleux sacrifice, offrande plus riche que ne l'aurait été une éternité d'innocence adamique. Et de même que Jésus était la présentation de l'homme à Dieu, il était aussi la présentation de Dieu à l'homme. Par suite de l'apostasie d'Adam, Dieu n'avait plus son image ici-bas. Mais maintenant, en Christ, il avait une image de lui-même plus complète et plus brillante que jamais Adam n'aurait pu présenter. Christ faisait connaître ce que Dieu était, non pas à une création très bonne, mais à un monde souillé et perdu. Il représentait Dieu en grâce, disant,
« Celui qui m'a vu a vu le Père. »
Jean 14, verset 10. Jésus manifesta Dieu, tout ce qui est de Dieu, tout ce qui se peut connaître de la lumière dont aucun homme ne peut approcher, a passé devant nos yeux en Jésus. Si nous jetons un nouveau regard sur le ministère de Christ, au point de vue de ses rapports avec Dieu, nous voyons Christ se souvenant toujours des droits de Dieu, toujours fidèle à la vérité et aux principes de Dieu, tout en s'occupant infatigablement chaque jour de soulager les besoins de l'homme. quelle que fût la nature de la souffrance humaine qui fit appel à lui, jamais Jésus ne sacrifia ou n'abandonna pour elle rien de ce qui appartenait à Dieu. À sa naissance, les anges dirent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts », aussi bien que « Bon plaisir dans les hommes », Luc 2, verset 14. Et en conséquence, pendant toute la durée de son ministère, Christ consulta la gloire de Dieu avec autant de jalousie qu'il se dévoua avec ardeur au service de la misère et de la bénédiction du pécheur. L'écho de ces paroles « Gloire à Dieu » et « Paix sur la terre » retentissait, si nous pouvons dire ainsi, à chaque occasion. L'histoire déjà mentionnée de la Syrophénicienne en est un exemple vivant. Jusqu'au moment où elle prit sa place en rapport avec les desseins et les dispensations de Dieu, Jésus ne pouvait rien pour elle. Dès lors, il put tout. Ce sont là des gloires dans le ministère de Jésus, dans sa relation avec Dieu. Quant à Satan, Jésus le rencontra premièrement, et cela au moment convenable, comme tentateur. Satan chercha, dans le désert, à faire pénétrer en Jésus cette corruption morale qu'il avait réussi à implanter en Adam et dans la nature humaine. La victoire sur le tentateur était l'introduction juste et nécessaire à tous les travaux et à tous les actes du Seigneur. C'est pourquoi ce fut l'Esprit qui le conduisit vers Satan, comme nous le lisons au chapitre 4 de Matthieu.
Alors Jésus fut amené par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable.
Avant que le Fils de l'homme pût entrer dans la maison de l'homme fort pour piller ses biens, il fallait qu'il eût lié l'homme fort, Matthieu 12, verset 29.
Ou comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si premièrement il n'a lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison?
Avant de pouvoir condamner les œuvres des ténèbres, Jésus devait montrer qu'il n'avait pas de communion avec elles, Éphésiens 5, verset 11.
Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi.
Il faut qu'il tienne tête à l'ennemi et qu'il le tienne en dehors de lui-même, avant de pouvoir entrer dans son royaume pour détruire ses œuvres. C'est ainsi que Jésus réduisit Satan au silence. Il le lia, et Satan dut se retirer comme un tentateur complètement vaincu. Il n'avait pu faire pénétrer en Jésus rien qui fût de lui, et avait trouvé, au contraire, que tout ce qui était là était de Dieu. Christ tint en dehors de lui-même tout ce que Adam, devant une tentation semblable, avait laissé entrer. Et le Seigneur Jésus, ayant ainsi été démontré net, a un parfait titre moral pour condamner ce qui est souillé. Peau pour peau, Job chapitre 2 a pu dire l'accusateur au sujet d'un autre homme, accusant et attaquant ainsi ou par d'autres paroles semblables la nature corrompue de l'homme déchu. Mais il n'avait rien à faire comme accusateur de Jésus devant le trône de Dieu. Il était réduit au silence. C'est ainsi que commencèrent les rapports de Jésus avec Satan. Puis Jésus entre dans sa maison et pille ses biens. Le monde est cette maison, et là où on voit le Seigneur, dans son ministère, effaçant les traces diverses et profondes de la puissance de l'ennemi. Chaque sourd ou aveugle qui est guéri, chaque lépreux qui est nettoyé, est un témoignage de cette œuvre réparatrice de Jésus, qui s'étend à toute la misère de l'homme, quelle qu'elle soit. Faire ainsi, c'était piller les biens de l'homme fort dans sa propre maison. Après l'avoir lié, Jésus pille ses biens. À la fin, il se rencontre de nouveau avec Satan. Il a affaire à celui qui a le pouvoir de la mort. Hébreux 2, verset 14.
Afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable.
Le calvaire fut l'heure du pouvoir des ténèbres, Luc 22, verset 53.
Lorsque j'étais tous les jours avec vous dans le temple, vous n'avez pas étendu vos mains contre moi. mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. »
Satan y épuisa toutes ses ressources et y mit à l'œuvre toute sa subtilité, mais il fut vaincu. Celui qui semblait être son captif fut son vainqueur. Par la mort, Jésus rendit impuissant celui qui avait l'empire de la mort. Il abolit le péché par le sacrifice de lui-même, la tête du serpent fut écrasée, et ainsi qu'on l'a dit, ce fut la mort et non pas l'homme qui fut sans force. Jésus donc, le Fils de Dieu, fut celui qui terrassa Satan après l'avoir lié et avoir pillé ses biens. Mais il y a encore une autre gloire morale que l'on voit briller dans le ministère de Christ dans ses rapports avec Satan. Christ ne permet jamais à Satan de lui rendre témoignage. Le témoignage peut être vrai et même flatteur, exprimé en bonnes et belles paroles comme celle-ci.
« Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. »
Marc 1, verset 24. Mais Jésus ne permet pas à Satan de parler. Le ministère du Seigneur était pur autant que plein de grâce, et il ne voulait pas, dans ce ministère, accepter de secours de ce qu'il était venu détruire. Jésus ne pouvait pas avoir de communion avec les ténèbres dans son service, plus que dans sa nature. Il ne pouvait pas agir par un principe de convenance ou d'utilitarisme. C'est pourquoi, en réponse au témoignage que Satan veut lui rendre, il le censure et le fait taire. Une note en bas de page. Le ministère de Christ, dans ce qui touche à ses rapports avec Satan, pour autant que les évangiles nous le font connaître, nous montre le Seigneur simplement comme celui qui écrase Satan, qui le lie et qui le pille. L'Apocalypse nous fait connaître les relations subséquentes de Jésus avec le même adversaire et nous montre Christ précipitant Satan sur la terre. Ensuite, quand le moment est venu, le jetant dans l'abîme, et plus tard l'abandonnant dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 10.
Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont et la bête et le faux prophète, et ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Nous pouvons suivre ainsi la victoire du Seigneur Jésus sur Satan, depuis le désert de la tentation jusqu'à l'étang de feu et de soufre. Reprise de la lecture. Enfin, dans ses relations avec l'homme, les gloires morales du ministère de Christ brillent d'un vif éclat. Jésus soulageait et servait l'homme sans relâche et dans toutes les variétés de sa misère, manifestant toutefois non moins clairement l'homme à lui-même, lui montrant qu'il avait une nature déchue, rebelle et apostate. En outre, il mettait l'homme à l'épreuve, et cette vérité mérite d'autant plus notre attention, et en général, elle est peu remarquée. Dans son enseignement, le Seigneur éprouvait les hommes, quelle que fût la relation dans laquelle ils se trouvaient placés vis-à-vis de lui, comme disciples ou comme multitude, comme venant à lui dans leurs afflictions, ou comme lui montrant de la bienveillance, ou bien encore comme ennemi, lui résistant comme tel. En marchant avec les disciples et en les enseignant, Jésus les faisait sans cesse passer par des exercices de cœur ou de conscience, et ceci a lieu si fréquemment qu'il n'est pas nécessaire d'en citer des exemples. Christ agissait de la même manière avec les foules qui le suivaient. Écoutez et comprenez, Matthieu 15, verset 10. Leur disait-il, exerçant ainsi leurs esprits pendant qu'ils les enseignaient.
Matthieu 15, verset 10, et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez et comprenez.
À quelques-uns de ceux qui venaient à lui avec leur peine, il disait,
croyez-vous que je puisse faire ceci, Matthieu 9, verset 28. La femme syrophénicienne est un exemple remarquable de la manière dont le Seigneur Jésus mettait à l'épreuve cette classe de personnes. En s'adressant au bienveillant Simon, Luc chapitre 7, après lui avoir raconté l'histoire de l'homme qui avait deux débiteurs, « Dis donc,
lui demanda-t-il,
lequel des deux l'aimera le plus ?»
Luc 7, verset 42. Les pharisiens aussi, ses infatigables adversaires, il les exerce constamment, et il y a dans ce fait une voix qui nous parle avec force. Il y a un témoignage puissant de ce que Christ est. Nous y apprenons qu'il n'enveloppait pas les pharisiens dans un jugement sommaire, mais qu'il voulait les amener à la repentance. De même aussi, quand il exerce ses disciples, il nous dit que nous n'apprenons ses leçons véritablement qu'autant que nous sommes amenés à lui par quelque activité d'intelligence, de cœur ou de conscience. Cette manière d'éprouver ceux qu'il conduisait ou enseignait est certainement encore une des gloires morales qui distinguèrent le ministère de Christ. Dans son ministère envers l'homme, Jésus prend souvent le caractère de censeur, et il ne pouvait en être autrement au milieu de la famille humaine, telle que le péché l'a rendue. Mais sa manière de censurer est bien digne de notre admiration. En reprenant les pharisiens, dont l'esprit mondain s'était soulevé contre lui, il use d'une forme de langage très solennelle.
« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. »
Matthieu 12, verset 30. Tandis que, en faisant allusion à ceux qui l'avaient reçu et qui l'aimaient, mais qui avaient besoin d'être fortifiés dans la foi ou d'être éclairés davantage, il s'exprime différemment et il dit
« Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. »
Luc 9, verset 50. Jésus se présente à nous sous le même caractère au chapitre 20 de Matthieu, lorsqu'il s'agit des 10 disciples et des 2 frères. Comme le Seigneur sait adoucir le reproche qu'il leur adresse, à cause du bien qui se trouve en ceux qu'il était obligé de reprendre. Il diffère en ceci de ses disciples indignés, qui n'eussent voulu voir épargner leurs frères en aucune mesure. Il examine patiemment toute la question et sépare ce qu'il y a de précieux de ce qu'il y a de vil. C'est encore comme censeur que le Seigneur s'adresse à Jean, qui avait défendu à quelqu'un qui ne voulait pas marcher avec les disciples, de chasser les démons au nom de Jésus. Mais à ce moment, le cœur de Jean venait de passer sous la discipline. À la lumière des paroles de Jésus, Jean avait découvert l'erreur qu'il avait commise, et il fait allusion à cette erreur, bien que le Seigneur ne l'eût aucunement mentionnée. Mais cela étant, et Jean ayant déjà conscience de sa faute et la confessant ouvertement, le Seigneur lui répond avec la plus grande douceur. Voyez Luc, chapitre 9, versets 46 à 50.
Et il s'éleva au milieu d'eux une question, à savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça auprès de lui, et il leur dit, « Quiconque recevra ce petit enfant en mon nom me reçoit, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et Jean répondant dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Et Jésus lui dit, « Ne le lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. »
Il en est de même quant à Jean-Baptiste. Le Seigneur le blâme tout en lui rendant un beau témoignage. Jean-Baptiste était alors en prison. Quelle signification ce fait devait avoir pour Jésus à cette heure? Cependant, Jean méritait d'être repris pour avoir envoyé à son Seigneur un message qui l'outrageait. La réprimande de Jésus est d'une délicatesse infinie. Il répond à Jean par quelques paroles que lui seul pouvait apprécier.
Bienheureux et quiconque n'aura pas été scandalisé en moi.
Matthieu 11, verset 6. Même les disciples de Jean, qui avaient été les instruments de ses communications avec le Seigneur, ne pouvaient comprendre la portée de ses paroles. Jésus voulait manifester Jean à son propre cœur, mais non pas à ses disciples ni au monde. Le reproche que Jésus adresse aux disciples d'Emmaüs est celui qu'il fait à Thomas après la résurrection, en chacun leur propre excellence. Pierre est reprise au chapitre 16 comme au chapitre 17 de Matthieu. Il y a toutefois une grande différence dans la manière dont le reproche est fait dans chacune des occasions. Toute cette variété est pleine de beauté morale, et nous pouvons dire assurément que, soit que Jésus s'exprime avec autorité ou avec douceur, avec vivacité ou avec ménagement, soit que la réprimande qui tombe de ses lèvres soit adoucie au point d'être à peine une réprimande, ou bien qu'elle devienne vive jusqu'à paraître repoussée ou désavouée. Cependant, si nous pesons la circonstance qui provoque les paroles de Jésus, nous découvrons que toutes ces nuances sont autant de perfections. Toutes les répréhensions du Seigneur sont un anneau d'or et un joyau d'or fin, qu'ils soient ou non suspendus à des oreilles attentives. Proverbe 25, verset 12.
Un anneau d'or et un joyau d'or fin, tel est, pour l'oreille qui écoute, celui qui reprend sagement. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est une huile excellente. Ma tête ne la refusera pas.
Psaume 141, verset 5. Le Seigneur en fit faire l'expérience à ses disciples.